Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble pendant 3 heures jusqu'à 15 heures avec une très belle équipe autour de la table. Nous avons tout d'abord Rémi Barré, bonjour Rémi.
Salut Estelle, bonjour à tous.
On a également notre économiste préféré, Pierre Rondeau, salut Pierre.
Salut à toutes et à tous.
Notre militante écologiste préférée également, Anne-Sophie Saint-Père. Ça va Anne-Sophie?
Ça va très bien, bonjour Estelle, bonjour tout le monde.
Et peut-être un jour notre écrivain préféré. Numéro 2,
ça va.
Mais on l'adore, bien sûr, journaliste et écrivain, Fred Hermel.
Bonjour,
ça va
Estelle.
Fred?
Ah bon, vous la sentez la finale Real PSG là?
Passons déjà à la demi-finale.
Ouais, mais là, c'est
déjà, on passe la demi-finale. Et après,
il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué.
Oh là, c'est beau, c'est fort, ça commence bien.
C'est de vous ça?
Oui, très bien. Oui, c'est de moi.
Sommaire d'Estelle Midi, aujourd'hui Gabriel Attal qui appelle à un vrai sursaut l'autorité pour les jeunes délinquants. Est-ce qu'il faudrait supprimer l'excuse de minorité? On en parle avec vous dans un instant au 32-16 et sur l'appli RMC. À midi et demi, Sandrine Rousseau qui fustige la tenue officielle de l'équipe de France pour la cérémonie officielle des JO. Manche longue pour les hommes, sans manche pour les femmes. Est-ce justifié ou ridicule? À 13h, la petite phrase du PDG de Michelin. Le SMIC n'est pas un salaire décent. D'accord, pas d'accord. À 14h, les discussions qui continuent sur l'utilisation des tickets resto au supermarché. Est-ce qu'il faut prolonger ce dispositif ou le réserver aux restaurateurs? Et puis il y aura de la conso, bien sûr. À 14h30, on parlera de chips. Est-ce qu'il y a des chips qui sont bonnes pour la santé? On répondra à cette question.
RMC Estelle Midi.
Et on va démarrer tout de suite Estelle Midi avec l'actualité du jour. Et c'est Gabriel Attal qui a lancé le Grenelle sur la violence des mineurs à Viry-Châtillon, ville marquée la semaine dernière par la mort d'un ado. Le Premier ministre qui a utilisé des mots forts et a appelé à un vrai sursaut d'autorité. On l'écoute.
Aujourd'hui, certains jeunes ont le sentiment que leur âge leur autorise tout. Ils croient que parce qu'ils ont 13 ans, 14 ans, 15 ans, rien ne leur arrivera jamais. Et c'est vrai que certains leur ont toujours cherché des excuses pour justifier leurs actes. Certains sont même devenus des professionnels de l'excuse. Je le dis, chercher des excuses, ça n'a jamais rendu une vie. Ça n'a jamais réparé le traumatisme d'un jeune agressé. Ça n'a jamais amélioré le quotidien d'un quartier. Ça n'a jamais remis personne dans le droit chemin. Alors devant vous, je le dis, la culture de l'excuse, c'est fini.
Février. Alors, Rémi, est-ce qu'on pourrait en arriver jusqu'à supprimer l'excuse de minorité?
Alors, y arriver, oui, on peut toujours modifier la loi. Gabriel Attal n'a pas fait d'annonce dans ce sens ce matin. Il a évoqué effectivement le fait qu'il n'y aurait plus d'excuses pour les mineurs délinquants, mais il va y avoir des discussions avec les personnes qui sont en charge de ça, notamment avec des magistrats. Mais il faut savoir que c'est vrai que la levée de l'excuse de minorité, sa suppression pure et simple, elle est réclamée par plusieurs responsables politique. Xavier Bertrand, LR, l'a encore répété ce matin sur l'antenne d'RMC. François-Xavier Bellamy, autre LR, s'est également prononcé pour. La veille, c'était le président du RN, Jordan Bardella, qui était également sur RMC, qui avait aussi évoqué la suppression de l'excuse de minorité. Alors, il faut rappeler ce que c'est que l'excuse de minorité. Il faut d'abord savoir qu'il y a plusieurs catégories d'âge chez les mineurs, d'un point de vue pénal. En dessous de 13 ans, la loi prévoit qu'un mineur n'est pas capable de discernement. Il ne peut avoir pleinement conscience de ses actes et ne peut donc être condamné à une peine de prison ferme. Au-dessus de cet âge, à partir donc de 16 ans jusqu'à la majorité, donc de 16 à 18 ans, la peine prononcée ne peut être supérieure à la moitié de la peine encourue. C'est l'excuse de minorité. Concrètement, si la peine encourue pour un délit ou un crime, par exemple, être 3 ans, eh bien, l'adolescent ne pourrait être condamné qu'à 1 an et demi de prison maximum. Enfin, au-delà de 16 ans et jusqu'à 18 ans, l'excuse de minorité peut être levée, mais ça reste extrêmement exceptionnel. Il faut une décision motivée. Deux exemples, depuis 1945, date de la création de l'excuse de minorité, elle n'a été levée que dans deux cas connus, dans l'affaire Patrick Dils en 1989 et dans l'affaire d'Agnès Marin en 2014. Dans cette dernière affaire, l'auteur des faits, qui avait 17 ans lorsqu'il a assassiné et violé une camarade de classe de 13 ans, a été condamné à la perpétuité et l'excuse de minorité avait été levée car le jury avait considéré que la personnalité de l'accusé était dangereuse. C'était déjà, à l'âge de 17 ans, un violeur récidiviste.
Alors, faut-il mettre fin à l'excuse de minorité, Fred Hermel?
Oui, malheureusement, parce que les temps ont changé. Voilà, les temps ont changé. Je pense que 13 ans peut être un âge vraiment clé là-dedans. Avant 13 ans, on est encore un enfant. Donc, je pense que l'excuse d'une minorité, elle peut pas aller en dessous de 13 ans. Mais 13 ans, regardez ce dernier exemple terrible, terrifiant. le jeune Philippe qui vient d'être assassiné à côté Dunkerque, à Grande-Synthe. Les deux des trois auteurs présumés ont 14 et 15 ans. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué en le tabassant pour lui voler son portable. Donc à 14-15 ans, quand on est capable de tuer volontairement de cette manière, on doit être responsable de ces actes.
On est conscient qu'on est en train de tuer à 14 ans.
Bah, oui,
comme à 28, par exemple.
Oui,
c'est ça la question.
Alors, excuse-moi, là aussi.
Est-ce que ton cerveau, il est vraiment formé à 14 ans?
Le policier municipal. Schintigheim, pardon.
Près de Strasbourg.
sur l'accent, mais près de Strasbourg. 17 ans et demi. Donc, l'excuse de minorité vaut encore pour ce garçon qui a foncé avec sa moto sur un policier municipal, qui l'a blessé, et s'est passé à. Allez, quoi, 20 centimètres, 50 centimètres d'une maman avec un bébé. Mmh. Les images sont terrifiantes. Donc, dans ce cas-là, 17 ans et demi, il peut bénéficier aujourd'hui de l'excuse de minorité, alors qu'il a volontairement foncé sur un policier qui l'a blessé et qu'il aurait pu causer un drame avec un bébé et sa maman. Donc, aujourd'hui, les temps ont changé. Aujourd'hui, on est, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, on est adulte plus tôt. Donc, la loi doit s'adapter. Plus la violence est jeune, plus la loi doit s'adapter. Et je terminerai là-dessus. Quand on fait des lois, encore faut-il que la justice les applique. Parce que vous savez, le garçon de 17 ans et demi dont je viens de parler, qui a foncé sur le policier, on a appris ce matin qu'il était en liberté conditionnelle.
Mais vous savez, il y avait David Lisnard, également maire de Cannes, qui avait demandé la suppression de l'excuse de minorité. C'était après un fait divers qui avait beaucoup fait parler. C'était trois mineurs de 14 et 15 ans qui avaient tabassé une grand-mère pour lui voler son sac.
Depuis 80 ans.
Exactement. Ouais. Et en fait, ils avaient pris 18 mois avec sursis. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont strictement rien eu. Mais est-ce qu'on peut juger, finalement, un gamin de 14 ou 15 ans, Anne-Sophie, c'est ce que je disais, comme quelqu'un qui en a 28 ou 30?
Alors non, clairement les lois prennent en compte l'âge. Ensuite, je trouve que le terme excuse de minorité, il est trompeur parce qu'on a l'impression qu'il y a une excuse et donc que les personnes ne seraient pas sanctionnées. Là, des jeunes qui ont tué ce garçon pour lui voler son téléphone, ils encourent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. C'est hyper compréhensible d'être en colère et d'avoir envie de se venger parce que c'est terrible ce qui s'est passé, mais la justice, elle est pas là pour ça. La justice, elle est là pour appliquer une sanction et pour protéger la société. Et pour protéger la société, c'est pas tellement la question de la conscience, elle se pose plutôt pour avant ou après 13 ans. Mais la question, c'est, ce sont des êtres en devenir. Comment on fait pour qu'ils ne soient plus dangereux pour la société? Et c'est pour ça que la justice pénale, aujourd'hui, traite les mineurs différemment des majeurs, parce que l'idée, c'est qu'à un moment, il y ait de la réinsertion qui soit possible. On peut se dire qu'il y a une sanction et qu'il faut aller en prison, mais il faut quand même se rappeler que le milieu carcéral, c'est un milieu qui est violent, qui est humiliant, qui fait baisser l'empathie.
On peut les laisser dans une prison pour mineurs, évidemment. On ne va pas les mélanger.
Prisons pour mineurs. Et l'idée, c'est à un moment, ces gens-là, ils vont ressortir. Comment on fait pour qu'ils ne soient plus un danger pour la société? C'est vraiment ça. Et c'est complètement détaché.
Si tu leur tapes sur les doigts et que tu leur demandes d'aller repeindre la lumière de la mairie.
Il y aura une sanction. Après, ensuite, clairement, il y a un enjeu de la prise en charge des mineurs par la justice et par les alternatives. D'accord. Parce que ça coûte, ça demande des moyens. La protection judiciaire de la jeunesse est complètement démunie. Donc il faut des moyens. Mais en fait, si on veut vraiment protéger la société, une coupure, ça peut être intéressant pour un jeune délinquant. La prison, ça l'est pas forcément. Et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir, parce que ça peut aussi être un effet de groupe violence qui l'enferme dans la délinquance. Les peines, elles sont pas dissuasives. Toutes les études, elles le montrent. Ce qui fait qu'on se désengage de la délinquance, ça va être des projets de travail, de mariage, d'études. Ouais, mais c'est vraiment ça.
Désolée, Anne-Sophie, mais c'est ça l'excuse. Toujours des excuses.
Mais c'est pas une excuse.
Que le mineur qui a traîné avec sa voiture sur de nombreux mètres un policier à Nantes, il a pris des heures de travail d'intérêt général.
Mon enjeu, c'est comment on protège la société après. Mais en fait, l'enjeu, c'est comment être efficace. On a le droit d'être en colère, mais la justice, elle se doit d'être efficace.
Pierre Rondeau, est-ce qu'on est, à votre avis, trop gentil avec les mineurs aujourd'hui? On vient d'entendre Gabriel Attal qui appelle à un sursaut d'autorité. Mais concrètement, dans ces propositions, il n'y a pas cette excuse de minorité.
Il n'y a pas cette excuse de minorité, mais simplement, sur ce que disait Fred, sur on devient plus rapidement adulte et que la société change et qu'à 13, 14, 15 ans, on a pleinement conscience de ses actes.
Mais plus violent aujourd'hui.
En tout cas, il y a une certaine jeunesse, c'est vrai, mais j'irais même plus loin. Même à 18, 20, 22 ans, 23 ans, est-on adulte ? Moi, pour traîner au quotidien avec des étudiants, je peux vous dire qu'à 22, 23 ans, on n'est pas adulte. On est encore un gamin. On est encore immature.
C'est le cas par cas, en fait.
Comment ?
Et vous avez des mômes de 15 ans qui sont extrêmement matures.
Très certainement, mais ce qu'on oublie aussi, c'est que je rejoins Anne-Sophie sur la question de la prévention et l'anticipation à ces actes de violence. C'est qu'est-ce que peut faire la société au-delà de la justice ? Que peut faire la société pour rétablir la distinction entre le bien et le mal ? Et cet élément-là est actuel et factuel. Et c'est vrai qu'il y a un bouleversement, un changement dans les mentalités, dans la société d'aujourd'hui. Post-Covid, post 2.0, post-réseaux sociaux, peu importe l'origine. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai le sentiment, il faudrait me le démontrer par des études, mais j'ai le sentiment, au-delà de la solution, de la réponse à apporter, que la distinction entre le bien et le mal a été bouleversé. Et qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui, effectivement, à 14 ans, 15 ans, vont s'autoriser à insulter, frapper, violenter des gens, alors que ce genre de choses, ce genre de faits, étaient totalement répréhensibles il y a quelques années. Aujourd'hui, cette distinction entre le bien et le mal été totalement galvaudée. Pour quelle raison ? Ce serait intéressant de savoir.
Il y a les écrans dont parlait Gabriel Attal.
Il y a les écrans, mais bien évidemment, il y a les écrans, les réseaux sociaux, le Covid. Voilà, j'ai souvent tendance à mettre en avant que le Covid a augmenté une espèce de fainéant.
A fait tomber certaines barrières.
A fait tomber beaucoup de barrières, de barrières. Et qu'on devrait, ne serait-ce qu'à minima, alors j'ai parlé pour ce que je sais, le retour, non pas de la sanction ou de la, comment dirais-je, de la répression à l'école, mais à minima de l'autorité. Et du respect de l'autorité hiérarchique, des liens de subordination.
L'a évoqué, là.
C'est exactement vrai.
Moi, je rejoins là-dessus, ça ne dérange absolument pas de faire preuve d'autorité vis-à-vis d'étudiants quand ils ne respectent pas les liens de subordination entre le professeur et l'élève.
Oui, mais t'as pas des étudiants qui vont tuer un gamin pour un portable.
Et nous sommes entièrement d'accord. C'est vrai que je parle bien spécifiquement de la distinction entre le bien et le mal qui a été totalement galvaudée aujourd'hui avec ces faits malheureux.
Et Rémi, vous avez plein de messages sur l'appli RMC.
Les messages de Mitch qui nous dit: bonjour Estelle, j'ai un fils de 12 ans. Il est très conscient de ce qui est bien, de ce qui est mal. Il est aussi très conscient de ses actes. Il faut arrêter d'excuser les enfants et s'en remettre aussi un petit peu à l'éducation des parents.
Et aussi la responsabilité des parents, c'est vrai.
Je suis totalement d'accord avec lui.
Et message de Mathieu qui nous dit: bonjour l'équipe, l'excuse de minorité ne doit plus être valable. Il faut des sanctions dissuasives et immédiates. Je pense que l'on peut encore faire marche arrière sur la violence des jeunes, mais il faut être ferme.
Et après, quand on parle de distinction entre le bien et le mal et être responsable de ses actes à 12 ans, c'est Mitch qui nous écrit.
Ouais.
Lui, il doit certainement très bien s'occuper de son gamin, etc. Et c'est pas la même chose entre un ado qui est livré à lui-même parce que le papa est parti, la maman s'en occupe tout seul et bosse la nuit, qu'un ado, je veux dire, qui vit dans un quartier plutôt favorisé avec ses deux parents qui font un job qui gagne de l'argent, qui sont là le soir, qui s'occupent de lui, qui lui font à manger, qui lui expliquent, qui lui tapent sur les doigts quand il fait une mauvaise chose, etc. Même si on n'a plus le droit. Bon bref, voilà. Et tous les enfants, n'ont malheureusement pas la même jeunesse, ils ne vivent pas dans le même cadre, etc.
Ça,
mais c'est pas pareil.
Il y a quand même un enjeu sur la délinquance des adolescents. Il y a plusieurs types de délinquance. Il y a délinquance d'exclusion, mais il y a aussi la délinquance initiatique qui touche aussi des jeunes des quartiers favorisés qui vont voler des scooters par défi, parce que il y a aussi tout ça pendant l'adolescence. Et évidemment,
moi j'ai jamais volé un scooter par défi.
Oui, mais si renverse quelqu'un pendant qu'il fait une connerie parce qu'il fait de la faute, voilà. Par ailleurs, moi, évidemment, il y a des enjeux d'autorité parentale, de sanctions, mais c'est quand même très simpliste de dire qu'on sombre dans la délinquance que parce que vos parents vous ont pas dit de pas être un délinquant ou que parce qu'il y a la peur de la sanction. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut pas
bien élevé, c'est plus
avec simplement avec une réponse simpliste à un problème complexe.
Non, mais quand tu fais une connerie et que t'as pas de sanction familiale, tu peux aller refaire.
Et tu peux faire des conneries et avoir une sanction familiale et le refaire quand même.
Une connerie. Sauf que si un gamin favorisé fait une connerie, je pense que la structure et le cadre l'empêcheront d'en refaire une autre.
Très rapidement, très rapidement.
Sur l'excuse de la minorité, sur la question de la sanction, de la répression. Il y a la répression qui est en jeu, c'est vrai, mais il y a la prévention aussi. La prévention, c'est l'éducation familiale et scolaire et institutionnelle.
Alors, on est en ligne avec Pierre qui nous appelle de Toulouse. Pierre qui est commercial et qui voulait réagir sur ce débat. Bonjour Pierre.
Bonjour Estelle, bonjour l'équipe.
Pierre, est-ce qu'il faut mettre fin à l'excuse de minorité pour vous ?
Ça me paraît évident. Je pense que la plupart des Français sont d'accord là-dessus. Je pense qu'il est temps qu'on ait une justice forte, dans un État fort, que la justice fasse peur. Parce que là, les jeunes, quand vous avez 14-15 ans, que vous prenez des couteaux, des barres de fer pour aller frapper quelqu'un, c'est pour le tuer. Donc on a des jeunes qui sont devenus des assassins. Il est temps que l'excuse de minorité, elle saute, pour pouvoir avoir une justice forte. Parce que
j'entends, mais est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce que le gamin de 15 ans, il est au courant de l'excuse de minorité? Je suis même pas sûr. Il s'en fout.
J'entends Anne-Sophie qui dit ils vont aller en prison, c'est pas une solution. Mais moi, je m'en fiche en fait que ça soit pas une solution. Je veux que la prison, elle protège la société et qu'elle arrête de protéger les
assassins. La prison, c'est après l'acte.
Ouais, mais il y a plus de place en prison, Pierre.
Non, mais moi, je m'en fiche.
Et puis, elle protégera pas la société quand ils sortiront de prison et qu'ils auront fréquenté uniquement des délinquants pendant 20 ans.
S'ils refont une bêtise 2 mois plus tard, ils retourneront 10 piges en prison.
On n'avancera pas.
Faut protéger la société. Faut arrêter de protéger les assassins. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il en est des parents? Il serait peut-être temps aussi de sanctionner les parents. Les parents, ils sont où, là, dans ces histoires?
Ils sont souvent nulle part, malheureusement.
Estelle, ça m'arrache le cœur de le dire, mais la dernière fois, j'écoutais Jordan Bardella et j'étais d'accord avec lui quand il a dit qu'il fallait couper les aides à ses parents. Ses parents n'ont pas à vivre des aides, pas à avoir des aides quand leurs enfants...
Mais si vous rendez les parents de plus en plus pauvres, ça ne va pas améliorer leur situation, malheureusement, Pierre. Je veux dire, vous pouvez... Il y a des villes qui expulsent les parents des HLM, etc.
Mais c'est le problème, Estelle, c'est qu'en fait, on se soucie des délinquants. Ouais, mais regardez, ils vont récidiver. Ouais, mais les parents, ça ne va pas les... Mais je m'en fiche, moi, de ce qu'ils vont devenir, ces gens-là. Ils n'ont qu'à s'en occuper de leurs enfants. Et s'ils ne s'en occupent pas, ils sont sanctionnés. C'est tout, point barre.
Bon, bah écoutez.
Une connerie, on paye. Il n'y a pas de secret, Estelle.
Eh ben merci beaucoup en tout cas Pierre d'avoir été avec nous, mais je pense que beaucoup de Français pensent la même chose que Pierre. On est en ligne avec notre invité aujourd'hui. Notre invité c'est l'avocate maître Caroline Raymond, elle est avocate pénaliste au barreau de Paris. Bonjour maître.
Bonjour madame Demy. Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait encore une excuse de minorité aujourd'hui en France?
Alors écoutez, moi je pense que il faut garder cette excuse de minorité. Néanmoins, je rejoins, si j'ai bien compris, ce que dit Xavier Bertrand, c'est-à-dire beaucoup de journalistes commentent en disant il veut la suppression de l'excuse de minorité. Non, de ce que j'ai compris, c'est qu'il ne veut plus que ce soit la règle, mais l'exception. Et ça, c'est fondamental, parce que le droit pénal, il faut le rappeler, c'est du droit casuistique, c'est-à-dire au cas par cas. On juge chaque accusé ou prévenu en fonction de sa personnalité et du crime qu'il a commis. J'étais encore il y a quelques semaines devant la cour d'assises des mineurs pour une affaire de Rix où ces jeunes qui comparaissaient de 16 à 18 ans au moment des faits en avaient aujourd'hui 6 ans de plus. Alors évidemment, ils sont jugés au moment où ils commettent le crime, c'est-à-dire entre 16 et 18 ans. Leur vie a bien sûr évolué. Comme le disait l'un de vos invités en plateau, de vos journalistes, ils se sont insérés, voire réinsérés.
C'est ça.
Ils ont construit une famille, ils ont fait des études pour certains, ils ont des professions, des métiers pour d'autres. Et aujourd'hui, on les juge alors qu'ils ont 23-24 ans pour des faits qu'ils ont commis 6 ans avant. Alors, je vous passe les...
Mais ça, c'est pas admissible, mais ça, c'est le problème de la lenteur de la justice, en fait.
Et ça, c'est le problème des moyens de la justice.
Il y a beaucoup de problèmes, malheureusement, comme le disait aussi Madame
Anne-Sophie Saint-Père,
sur votre plateau, beaucoup de problèmes. Le problème, il est très complexe. Il y a effectivement la lenteur de la justice.
Mais alors, concrètement, Caroline Raymond, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que on garde l'excuse de minorité, mais est-ce qu'on pourrait la lever peut-être plus facilement? Rémi Barré le disait tout à l'heure. Elle est levée que de manière extraordinaire, en fait.
Elle n'a été levée que deux fois.
Donc c'est rien du tout. Peut-être qu'à un moment, on peut peut-être assouplir le dispositif, vous voyez.
Voilà. En fait, pour moi, il faudrait redéfinir ce que c'est précisément l'excuse de minorité. C'est pas juste le fait d'être mineur. C'est pas juste l'âge qui fait l'excuse de minorité. C'est aussi la personnalité des accusés, des prévenus. Et pour exemple, l'un de ces jeunes disait en garde à vue quand il avait 17 ans, « Ah mais tu sais, toi tu vas prendre un bail de 5, toi tu vas prendre un bail de 3. » Un bail de 3, un bail de 5, c'est « tu vas faire 5 ans, tu vas faire 3 ans ». Donc ils savaient déjà les peines auxquelles ils allaient être condamnés.
C'est ça.
Ils sont forcément énormes. Autre point, ils font de la détention provisoire, ce qui est logique pour diverses raisons, pour éviter les concertations, etc. Ça, c'est de la détention provisoire, donc on attend d'être jugé. Quand ils ressortent libres, après avoir été condamnés sur une période qui couvre la détention provisoire, et avec éventuellement un an ou deux de sursis aménageable avec un bracelet, En fait, ils ressortent libres de la cour, du tribunal, et se disant, bah, finalement, tu vois, j'ai tué quelqu'un et bah, j'ai pris 2 ans, 3 ans.
Oui. Mais c'est comme s'ils étaient acquittés, en fait. C'est ça que vous voulez dire, dans leur tête.
Bon, c'est pas dans leur tête, mais presque, enfin, plus dans la tête de la famille des victimes.
Oui, aussi,
on sait très bien,
bien
que les victimes, aujourd'hui, elles sont beaucoup plus prises en compte par le droit pénal, ce qui n'était pas encore le cas il y a quelques
dizaines
d'années.
C'est une bonne chose.
Mais le droit pénal est là pour juger les délinquants. Mais dans la famille des victimes, dans la tête de la famille des victimes, on se dit, mais en fait, ils ont même pas été, ils comprennent pas la condamnation réellement parce qu'ils retombent en prison. Alors,
c'est ça. Non, mais en fait, je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que le problème, c'est pas tant l'excuse de minorité, c'est à la fois la lenteur de la justice et puis le fait qu'effectivement, quand tu juges quelqu'un 5 ans après, la personne a une autre vie,
oui.
C'est certainement plus la même. Entre 14 ans et 19 ans, encore heureux qu'on soit plus les mêmes. Et c'est aussi ce problème-là. Et puis rendre peut-être l'excuse de minorité plus facilement enlevable. Merci beaucoup, maître, en tout cas, d'avoir été avec nous. Rémi, on termine avec des messages et le résultat de notre consultation sur Twitter.
J'ai ce message de Zoro, c'est son pseudo sur
oui, je pense, oui.
Sur Direct qui nous dit arrêtez de dire
que
arrêtez de dire que la prison est un milieu humiliant, vous n'êtes jamais allé en prison. Moi, oui, il faut sévir, car cela m'a sauvé et maintenant j'ai une vie normale. Voilà ce témoignage.
On va regarder tout de suite le résultat de notre consultation sur Twitter. Je vous préviens tout de suite, il n'y a aucune marge d'erreur.
Ouais, est-ce qu'il faut supprimer, mettre fin à l'excuse de minorité? C'est oui pour 94% de
mots
qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Oui, donc c'est une majorité extrêmement large. Dans un instant, on parlera de la polémique du jour. Là, ça n'a rien à voir. C'est sur la tenue des athlètes français lors de la cérémonie officielle des JO. Il y a des manches longues pour les hommes et des sans manches pour les femmes. Évidemment, ça ne plaît pas à Sandrine Rousseau. Est-ce que vous trouvez cette polémique justifiée ou ridicule? On en parle dans un instant dans Estelle Midi. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 12h30, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, avec Rémi Barré, Pierre Rondeau, Anne-Sophie Saint-Père et Fred Hermel. Et on va tout de suite s'intéresser à la polémique du jour. Et cette polémique, elle concerne la tenue des athlètes français pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Manches longues pour les hommes, sans manches pour les femmes. Une différence qui n'a pas échappé à l'œil aiguisé de l'écologiste Sandrine Rousseau.
Grande fatigue. Voilà le commentaire de l'élu au-dessus du partage d'un article du Parisien qui présente ces fameuses tenues d'apparat des athlètes prévues pour être notamment portées le jour de la cérémonie d'ouverture. Des tenues où la différence qui saute aux yeux, c'est peut-être ça qui contrarie Sandrine Rousseau.
Ah bah c'est ça. Hein.
Elle ne met que grande fatigue.
C'est, oui,
bah, c'est que les hommes portaient des vestes à manches longues alors que les femmes sont sans manches. Le tout signé, ces costumes Berluti, la très chic marque du groupe LVMH. Pour un certain prix, hein, au magasin, une paire de sneakers de la marque coûte 1000 euros.
Ah oui, c'est des Berluti.
Environ 4000 euros. Les athlètes, d'ailleurs, pourront conserver leur tenue après les Jeux.
Oui, alors ça ne se porte pas. Enfin, je veux dire,
non.
Pour aller en ville avec cette tenue, il faut quand même avoir.
Les sneakers, peut-être. Bah, un peu
oui,
plus.
Voilà. Mais sinon, la tenue, je pense que tu la laisses dans ton placard.
Reste que ce type de polémique n'est pas propre à la France. Il y a quelques jours, ce sont des athlètes américaines, des femmes, qui ont estimé que leur tenue de compétition était trop suggestive et sexiste. En cause, pour elles, un bas très serré au niveau de l'entrejambe. La Fédération américaine d'athlètes a alors répliqué en indiquant que les sportives avaient au moins 20 combinaisons différentes avec de nombreux hauts et bas à disposition et qu'elles pourraient choisir ce qu'elles préfèrent.
Alors, cette polémique sur les tenues officielles des Français aux Jeux Olympiques est-elle justifiée ou ridicule, Anne-Sophie Saint-Père?
Alors, je ne suis pas ni une spécialiste des Jeux Olympiques, ni une spécialiste de la mode, mais quand même, c'est vrai que cette histoire de veste sans manche, ça m'a interpellée. Je ne sais pas, enfin, j'ai jamais vu quelqu'un porter une veste sans manche, donc je comprends
c'est
pas
rare.
Du tout ce choix. Pour moi, c'est un peu le cran encore au-dessus de la doudoune sans manche en termes d'erreur de mode. Donc pourquoi, je ne sais pas. Ensuite, ça ne va pas m'empêcher de dormir, mais quel dommage. Et en plus, moi, je pensais
quel dommage.
Quel dommage, parce que je trouve ça moche. Après, je pensais que les femmes avaient le choix. S'il y avait le choix, c'est-à-dire si un homme avait envie de mettre ce truc sans manche et une femme pouvait mettre le truc avec manche, très bien. Mais là, apparemment, en plus, les femmes sont obligées de choisir la tenue qui est moche.
Ouais, alors, je vous rappelle quand même la date d'ouverture des JO, c'est-à-dire le 26 juillet. Croyez-moi, les femmes seront très contentes d'avoir des sans manches et pas des manches. Mais en fait, Sandrine Rousseau, ce qu'elle veut dire.
Et dans ce cas-là, pourquoi on en met aux hommes si c'est si inconfortable?
Mais
parce qu'en fait, c'était indécent.
Mais non, mais c'est parce que en fait, les femmes, c'était pour souligner effectivement leur silhouette, etc. C'est vrai qu'un tailleur pour les femmes avec des manches, etc., c'est peut-être moins féminin. Mais alors après, effectivement, peut-être que c'est sexiste. Peut-être pas, mais en tout cas, pour Sandrine Rousseau, c'est...
Et pourquoi ne pas souligner le corps des athlètes, soit masculin, qui méritent tout à fait d'être soulignés. Enfin, ils ont des biceps magnifiques, pourquoi ne pas les montrer aussi?
Mais c'est tout le débat. C'est tout le débat.
Mais là, encore une fois, Sandrine Rousseau, je vais malheureusement la critiquer alors que je suis censé défendre la cause environnementale.
On est loin de la cause environnementale.
Non, mais bon, député...
Là, c'est féminisme.
Enfin bref, elle ne maîtrise pas le sujet et elle est dans la polémique gratuite et inintéressante.
C'est ce que dit un internaute qui a réagi à son tweet en disant, parce qu'elle tweet grande fatigue, et il lui répond, effectivement, je comprends que vous soyez très fatigué à force de vous opposer à tout.
Oui, et là juste, parce que la comparaison, tu l'as rappelé Rémi, avec le cas nord-américain, la polémique états-unienne est intéressante parce que les Américains, ce sont les athlètes directement qui ont porté réclamation. Là, la tenue française, elle a été faite en collaboration directe avec les athlètes, les sportifs et sportives. Ce sont eux qu'on voit en photo à la télévision qui ont décidé de la tenue. Ce sont eux qui directement la porteront, mais qui ont décidé qu'il y ait des manches et qu'il y ait des costumes sans manches. Donc, il n'y a pas de polémique. C'est eux qui l'ont validé. Si ça avait été la marque Berluti, c'est ça, qui avait imposé ce costume, et que les sportifs et sportives avaient porté réclamation, on aurait pu polémiquer. C'est ce qui s'est passé côté américain. Là, ils l'ont validé directement.
Et Sandrine Rousseau ne maîtrise pas... Certains athlètes, femmes, ont dit qu'elles ne partageaient pas du tout l'opinion de leur consoeur.
Donc, je suis à partir de là.
Et t'as 20 tenues différentes. Donc,
et la fédération d'athlètes dit que les tenues ont été choisies en collaboration avec les athlètes.
Moi, j'ai envie de répondre à Sandrine Rousseau. Tu nous fatigues, en fait, parce que elle ne maîtrise pas le dossier, elle ne sait pas ce qui se passe, elle ne sait pas ce qui se passe en coulisses, elle n'a pas anticipé qu'effectivement ces tenues ont directement été validées par les principaux et principales concernées. Elle polémique, elle tweet juste pour tweeter, juste pour qu'on parle d'elle.
Non, parce que pour elle,
je suis sûr qu'elle est contente. Elle est contente parce qu'on parle d'elle.
Oui, mais en fait, pour elle, et ça peut s'entendre. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes?
Ça a été validé par les athlètes.
Non, mais c'est pas le problème. Tiens, regarde, quand t'as un gamin t'as deux gamins qui ont 5 ans, t'as une petite fille et un petit garçon, tu vas au rayon vêtements. Si tu cherches un short pour les petites filles, le short, il sera systématiquement mini short. Le short des garçons sera systématiquement en grand short. En fait, aujourd'hui, ce que dit Sandrine Rousseau, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait souligner.
Mais qu'elle en parle dans les magasins, dans ces cas-là.
Le corps des femmes avec une veste sans manches et pas le corps des hommes.
Qu'elle aille faire des tweets sur ce qui se passe à Kiabi ou ailleurs, sur les marques de vêtements. Qu'elle fasse des tweets ou qu'elle fasse des propositions de loi pour interdire la segmentation et la mode genrée entre les hommes et les femmes. Mais là,
qu'elle met en exergue.
Qu'elle le fasse dans ces cas-là. Pour la tenue olympique, ça a été validé directement par les principaux concernés. Anne-Sophie disait, pourquoi ils n'ont pas le choix? Parce que les athlètes hommes ont demandé avec manches, les athlètes femmes ont demandé sans manches.
Non, parce qu'on leur a proposé les modèles, ils ont dit oui.
Eh bien, elles ont dit oui. Si une femme dit, j'aurais préféré une manche.
Mais parce qu'elles n'ont pas pensé à ça. On n'y avait pas pensé avant que Sandrine Rousseau tweet.
Peut-être qu'elle préférait sans manches. Ça a été acté, validé.
Oui.
Sandrine Rousseau n'a qu'à faire une proposition de loi pour lutter contre la mode genrée. Ok, on pourra en débattre. Mais ça, c'est le choix directement des athlètes. Point final.
J'adore ce sujet, j'adore.
Moi aussi.
Je vous rappelle, et ça va être une parenthèse très courte, que pour Sandrine Rousseau, le voile qui est parfois imposé aux femmes, le voile islamique, est peut-être un embellissement. Alors je ferme la parenthèse sur les goûts. Si les vestes des femmes avaient été celles des hommes, Sandrine Rousseau aurait sûrement tweeté en disant négation de la féminité, imposition masculine aux femmes. Elle cherche tout le temps le buzz. Sincèrement, les hommes et les femmes s'habillent différemment dans la vie. Oui, en général, les hommes et les femmes s'habillent différemment. Donc là,
je vois assez peu d'hommes en costard le 26 juillet, par exemple.
Je vois assez peu d'hommes en veste avec des manches le 26 juillet.
Ce sont des tenues
d'art. C'est la cérémonie d'ouverture.
Oui.
C'est un style smoking. Donc là, le smoking femme, regardez, les femmes l'été mettent beaucoup de robes.
Oui,
comme ça.
Ça arrive. Et les hommes mettent des shorts et des t-shirts.
Oui, mais par mariage.
Regarde.
On parle de cérémonie et d'une tenue d'apparat. En tant qu'homme, est-ce que moi, par exemple, je suis invité à un mariage cet été, est-ce que je vais y aller en t-shirt et en short?
Non.
Non. Ben voilà.
Je vais y aller comment?
Par contre.
Tu vas y aller en costard.
N'empêche que, et la femme, au mariage, vous avez mis, si je suis invité, ou une femme est invitée, elle va y aller avec une robe où on va voir ses manches. Tu vois ce que je veux dire?
Éventuellement, si c'est trop chaud, elle ira à ce mariage sans manches.
Sans manches. Et le truc, c'est que dans les critères de la mode, dans les codes de la mode, une femme qui va sans manches,
c'est élégant. Un homme qui va sans manches, ce n'est pas élégant. Ce sont les codes de la mode.
Il marque un point. Il marque
alors,
un point.
Moi, franchement, les bras des athlètes sans manches, je trouve ça certainement très élégant.
Alors, c'est pas élégant. C'est joli, mais pas élégant.
Mais en tenue d'apparence,
ça peut être élégant. Et par ailleurs, mais moi, en fait, vous me faites rire parce que, quand même, elle est hyper forte, Sandrine Rousseau. En un tweet, elle fait que vous passez une demi-heure à parler d'elle, alors qu'il faudrait parler de cette.
Mais
parce que vous m'avez donné ce sujet-là. Mais en vrai, moi, je pense qu'il y a effectivement des questions à se poser. Bon, ça m'intéresse pas des masses. Je pense que ça aurait été bien que les athlètes aient le choix dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, s'il y a une femme qui trouve que cette veste est un peu ridicule, qu'elle puisse prendre celle avec manche.
Et que s'il y a un homme qui a
beaucoup trop chaud,
ils
puissent prendre celle sans manche. Et puis voilà, comme ça, le problème est réglé.
À 4000 euros la veste, ils n'allaient pas créer 10 000 prototypes. Tu vois, c'est pas possible. Mais pour revenir à la jeunesse du débat, en fait, au départ, on a vu le tweet de Sandrine Rousseau. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, je comprends pas ce tweet. Je comprenais pas pourquoi elle disait ça. Et j'ai vraiment, alors j'ai regardé la photo, je me dis mais où est le problème? Et puis après, mais je me dis ah mais oui, le problème c'est ça. Mais c'est vrai qu'en fait on ne l'avait pas vu. Et elle est féministe et donc elle voit des problèmes là où il y en a peut-être pas. Ça voilà. C'est sûr.
Elle fait pas du bien au féminisme en fait avec
mais
ce genre
en
de.
Tout cas, non mais ça te permet au moins de réfléchir et de te poser la question parce que s'il n'avait pas tweeté, personne ne se serait posé la question. Je voudrais qu'on prenne Jérémy en ligne. Il nous appelle de Cran en Mayenne. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, Jérémy. Est-ce que vous êtes d'accord avec Sandrine Rousseau? Voilà, c'est pas très malin finalement d'avoir genré les tenues.
Elle doit avoir que ça à faire de ses journées, quoi.
Bah, ou alors elle a un œil de lynx parce qu'elle voit des choses que nous on ne voit pas.
Moi, enfin, je sais, j'ai entendu les sportives qui portaient les vestes qui sont apparemment toutes plus ou moins heureuses quand même que voilà. Elles, on va être en été, personne se plaint, elles ont le choix entre même parce qu'elle parle pas du débat, mais il y a jupe ou pantalon, c'est basket vrai. Ou mocassin. Enfin voilà. Et après, c'est pas, il y a rien de vulgaire. Elles ont pas, oui, bah elles ont des manches, elles ont pas de manches sur le costume. Moi, je vois rien qui choque en fait. Je sais pas pourquoi il y a une polémique là-dessus.
Mais parce qu'en fait, on va valoriser la féminité et pas la masculinité. Pas la masculinité.
Avec une veste de manches longues, et cette classe-là, on met en valeur la masculinité.
D'accord. Ah oui. En fait, mais regarde, la femme, elle a le choix entre une robe, par exemple, c'est-à-dire que la femme, elle peut montrer ses jambes et montrer ses bras. Et l'homme, en revanche, il n'a pas le choix entre bermuda et pantalon.
Oui, mais dans les codes de la mode, une cérémonie, tu vas pas en bermuda. Je suis désolé.
Est-ce que vous accepteriez, Estelle, que je fasse l'émission la prochaine fois en short débardeur?
Alors, excusez-moi, moi j'ai deux amis qui se sont mariés en short. Mais attendez, non mais c'est des shorts d'une grande, non mais d'une marque très haute couture, etc. Et ils se sont mariés en short. C'était hyper élégant.
Ok, la voilà. Prochaine, je viens en short et débardeur.
Mais moi, tu peux venir en short, j'en ai rien à faire en fait. Okay. C'est ton problème. Si tu veux venir en beauf comme ça à l'émission, tu fais bien comme tu veux.
Et non, si je viens en Marcel, moi, tu vas venir mettre une petite veste.
Mais tu as des shorts qui sont extrêmement bien coupés. On aurait pu aussi donner cette possibilité aux hommes, mais on ne l'a pas donné. En fait, la seule possibilité qu'on a donnée, c'est aux femmes de montrer leurs jambes et de montrer leurs bras. Alors que les hommes, on ne leur donne pas cette possibilité.
Et Estelle me laisse avoir des manches à ma veste et j'en suis vraiment ravie parce que ça m'aurait beaucoup gênée d'avoir une veste sans manches.
Voilà. Mais merci en tout cas, Jérémy, d'avoir été avec nous, Jérémy qui ne voit pas le souci, mais peut-être qu'il n'y a que Sandrine Rousseau qui voit le souci, Rémi.
Comme souvent. Hein.
Ben c'est exactement ce que disent nos messages. Hein. Beaucoup nous disent que c'est une polémique qui ne sert à rien, comme d'habitude, avec Sandrine Rousseau, ce que nous dit Guy, c'est polémiquer pour polémiquer, passons à autre chose.
Est-ce qu'à un moment, quand même, Fred, il faudrait que peut-être qu'au JO, ben, on ait la même charte finalement pour les hommes et les femmes, hein, voilà, pour plus qu'il y ait de polémique justement.
Mais il n'y a pas de polémique.
Bah,
non, il n'y a pas de polémique. C'est-à-dire que c'est fait en accord, et Pierre l'a extrêmement bien expliqué, c'est fait en accord avec les athlètes, c'est tout. Donc il n'y a pas de polémique. Elle essaye toujours d'exister à travers la polémique, et sur les sujets sérieux, on ne la voit pas, Sandrine Rousseau. Donc voilà, il n'y a pas de polémique. Et, en plus, franchement, c'est beau. Hein. Elles sont, c'est classe.
Les tenues, moi je suis pas très fan.
Moi
j'aime beaucoup les couleurs.
J'ai un message de Marie Zévan GP, évidemment, qu'on adore et qui me dit le problème, c'est pas le sexisme, c'est que la tenue est moche. Rajoute, comme à chaque Jeux Olympiques, voilà, donc finalement. Bah,
et vous verrez, les Français, nous serons les mieux habillés. Nous sommes le pays de la mode. Ouais. Là, t'as un genre de smoking. Après, c'est un métable. Après.
Ah ben c'est difficilement
métal. Ceux qui nous écoutent en radio, je pense que c'est le col passé bleu blanc, enfin bleu.
Ah mais ça dort ça.
rouge.
C'est bleu blanc rouge.
Pas de rouge d'ailleurs.
C'est un col en soie, en satin.
C'est bleu blanc rouge.
C'est violet.
Mais non, c'est bleu blanc rouge.
Mais non, c'est bleu blanc rouge.
Et c'est bleu blanc rouge passé.
Bon, écoutez, on va pas débattre de cette tenue pendant 20 minutes.
Ah bah si,
très passé même.
On va voir tout de suite, on va se mettre d'accord. Voilà, avec le résultat de notre sondage. Pas de manches pour les femmes, des manches pour les hommes. Cette polémique au sujet de la tenue vestimentaire pour les JO est-elle justifiée ou ridicule?
C'est ridicule pour 82% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Ah. Bon, dans un instant, il y aura Anthony Morel qui viendra sur ce plateau. Il va parler de ma grande passion, puisqu'il va parler d'aspirateur. On va découvrir un aspirateur qui ne laisse plus rien passer. C'est-à-dire que là, il n'y aura plus aucune poussière dans votre appartement. On en parle dans un instant avec Anthony Morel. Et puis, à 13h, on parlera de la petite phrase du jour, celle du PDG de Michelin qui dit « Le SMIC n'est pas un salaire décent ». D'accord, pas d'accord. On en parle à 13h. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Midi 48, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, et c'est l'heure à laquelle on accueille Anthony Morel chaque jour dans l'émission avec un peu d'avance aujourd'hui parce qu'on parle aspirateur.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Je devrais parler tous les jours d'aspirateur.
Oui, vous voyez, dès qu'on parle de mes passions, je vous donne une minute.
Mais je sais, c'est ce que j'ai noté.
Car nous allons effectivement faire une chronique spéciale pour les maniaques de la propreté. Vous allez nous présenter, Anthony, un aspirateur qui permet d'être sûr de ne pas avoir raté un seul grain de poussière.
Ah, parce qu'il y a toujours ce petit doute, vous savez, le petit recoin là entre la table basse et le meuble. Je suis passé ou je suis pas passé, je sais plus. Puis là, pourquoi il y a des miettes alors que je suis sûr d'avoir déjà aspiré? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben là, avec l'aspirateur que je vais vous présenter, tout ça c'est terminé. Il est absolument incroyable. Alors pour ceux qui nous regardent à la télé, je pense que vous avez compris tout de suite comment ça fonctionnait. C'est un aspirateur classique, hein. C'est pas un aspirateur robot, donc aspirateur balai, mais qui est couplé à une application mobile qui va vous montrer en temps réel là où vous êtes passé. Et là où vous n'êtes pas passé.
C'est extraordinaire.
Donc vous mettez votre téléphone en fait sur un support, c'est comme sur les vélos pour mettre le téléphone en mode GPS. Et donc, quand vous commencez à aspirer, en fait, ça va s'afficher en violet, comme si vous peignez le sol, si vous voulez. Voilà.
C'est génial.
Et donc, à chaque fois que vous ratez un endroit, ça reste en blanc et vous allez repasser dessus. Vous êtes sûr de rien rater. C'est le but, évidemment, c'est qu'à la fin tout soit violet et qu'il n'y ait plus seule partie de blanche. Le truc qui est très malin là-dedans.
Et tu files ça au gosse.
Bah voilà. Bien exactement. Sûr. C'est qu'en fait, on transforme la corvée en jeu vidéo. C'est ça le truc. C'est vas-y, peins-moi tout en violet et puis reviens me voir après. On pourrait même imaginer des jeux via l'application où tu ajoutes, je sais pas, des petites pièces comme dans Mario à aller chercher on peut imaginer plein de trucs comme ça.
Tous les jours.
Ben voilà, c'est exactement ça. C'est le truc que t'as jamais envie de faire. Et ben peut-être que ça te donnerait envie de le faire. Alors peut-être que aussi au bout de 2-3 fois, tu te lasses et t'as plus du tout envie de le faire.
Non, mais tu mets des points. Genre, tu vas chercher le petit truc sur le canapé, tu mets des points. Là, les mecs, ils adoreraient passer l'aspirateur.
Mais tu pourrais avoir un classement mondial. Tu pourrais te comparer avec le meilleur aspirateur du monde, tu vois. Ça pourrait être ça le truc.
Mais comme le truc avec les Pokémon, tu sais, t'allais chercher des. Mais oui.
Pokémon Go.
Ouais, c'est ça.
Tu peux aller chercher des Pokémon dans ton sac.
Et tu pourrais aller aspirer chez les gens pour avoir des points.
Ouais, c'est ça. Alors, il y a un modèle économique à monter, Estelle. Il faut monter un business, ah, c'est sûr.
Non, mais je suis totalement
un rencontre aspirateur.
Ouais, pas mal. Pas mal. Non, mais c'est assez malin, je dois dire. Alors, bon, le problème, c'est que pour l'instant, ça fonctionne que sur les aspirateurs haut de gamme d'une marque qui est déjà haut de gamme, donc ça coûte très très cher. Mais
et
ça reste.
Sur Dyson, quoi.
Je ne voulais pas le dire, mais si vous le dites,
bah, voilà. Je crois qu'on avait compris.
Ouais, c'est un aspirateur et ils font l'appli qui va avec.
Oui, est-ce que si tu as un autre aspirateur, tu peux prendre l'appli?
Ah non. Mais après, je pense que ça va donner des idées à d'autres pour développer des applis pour n'importe quel aspirateur, ça c'est sûr.
Alors pour les plus maniaques, il y a un autre accessoire qu'on trouve notamment sur Internet au niveau de la propreté. Ce sont les lampes tueuses de virus.
Oui, absolument. Alors c'est très sérieux, ça s'est démocratisé, ou en tout cas ça a été lancé notamment avec le Covid, forcément. Et c'est resté depuis. Alors en fait, ça prend la forme d'une lampe, parfois de lampes de poche d'ailleurs, qui vont diffuser une lumière bleu-vert, un peu bleuâtre, on va le dire comme ça, et qui va, en fait, tout ce que touche le faisceau de la lumière, eh ben, ça va détruire tous les micro-organismes à sa surface. Donc ça va désinfecter et stériliser. Et c'est pas un truc, alors, c'est pas du gadget, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une technologie qui existe depuis très longtemps et qui est utilisée dans le monde médical pour stériliser le matériel médical. C'est des rayons qu'on appelle les rayons UVC, qui sont des rayons, c'est assez dangereux, donc faut pas se mettre ça, faire attention à pas se le mettre sur la peau ou laisser les enfants jouer avec. Mais par contre, dès que vous mettez ça, je sais pas, vous placez ça sur un clavier ou sur un plan de travail, peu importe, eh bien, ça va le désinfecter. Alors, ça n'empêche pas de passer un petit coup d'éponge, un petit coup de pchit-pchit éventuellement. Mais tu as même, ce qui existe, ce qui est pas mal, c'est des petits boîtiers que tu peux mettre, par exemple, sur le meuble à l'entrée chez toi, et tu mets à l'intérieur tes clés, le badge de l'entreprise, et en fait, ça va les désinfecter pendant la nuit, et tu les reprends le matin sans aucun problème.
J'adore, mais ça coûte combien, ça?
Alors, ça dépend des modèles, mais c'est entre 50 et 150 euros. Ça dépend du format, en fait, parce que tu as des petites lampes, tu as des grandes grandes lampes, t'en as qui fonctionnent en mode robotique, t'as les petits.
Ça se met dans un sac ou c'est.
Oui, t'en as des petites que tu peux mettre dans un sac, absolument.
Ah, ouais. Mais j'aime beaucoup.
C'est malin quoi.
Mais on va désinfecter les mains avec quoi.
Ah non, par contre, ouais. Très attention hein, pour le coup, c'est des trucs ouais. Qui peuvent être.
On se dit, j'ai mal à la gorge, j'ai peut-être un virus, non, on ne fait pas.
Donc pas sur la tête, pas sur les yeux, pas sur les mains, vous faites attention.
Et pour les phobiques des acariens, vous avez. Ou les allergiques, comme ça, c'est terrible.
C'est ça.
Vous avez découvert un aspirateur de lit.
Ouais, absolument. Un aspirateur de lit anti-acarien. Il faut savoir que dans un lit moyen, il y a entre 1 et 2 millions d'acariens.
Ah, non, ne me dites pas ça. Ça me dégoûte.
J'en étais sûr. Mais oui, mais c'est la réalité. Il faut bien aérer, évidemment. Mais là, c'est un petit aspirateur, mais qui a été spécifiquement conçu pour ça. Donc ça ressemble au robot aspirateur pour le sol, en un peu plus petit. Tu poses ça sur le lit. Et en fait, il est équipé d'un système de vibration. C'est 15 000 oscillations par minute. Donc ça secoue un peu. Tu as aussi les lampes UVC dont je parlais à l'instant qui sont intégrées dans l'aspirateur. Et donc ça va venir supprimer tous les petits acariens. Ouais, ça tu peux le trouver aussi aspirateur acarien. Ouais.
Mais pourquoi est-ce qu'on le met que sur le lit et pas sur le sol?
Bah parce que il est vraiment fait spécifiquement pour ça. C'est un petit modèle. Je pense pas qu'il ait l'autonomie suffisante pour faire 50 ou 100 mètres carrés. Il aspire pas la poussière en fait. Il est vraiment là pour supprimer les acariens.
Voilà. Ça coûte combien ?
Il n'a pas de bac à poussière. J'ai plus pris en tête celui-ci. J'ai pas
c'est dommage parce qu'on avait
envie je suis désolé.
Je l'ai acheté, je pense.
Pierre, il est à fond.
Bon, écoutez, je rechercherai le prix si vous voulez, mais je l'ai plus en tête. C'est l'innovation qui m'a intéressé. Je me suis pas arrêté au prix.
Merci de cette chronique géniale pour les maniaques que nous sommes. Anthony Morel, chronique à retrouver bien sûr en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. On parle de quoi demain, Anthony ?
Demain, on va visiter l'aéroport du futur où on pourra arriver quelques minutes avant son vol. Ce que vous faites déjà.
Oui.
Ah, mais là, ça
ici,
va.
Ici, je pars à 15h. Je pars d'ici à 15h. J'ai mon vol à Orly à 15h50.
Parce que vous avez les nouveaux contrôles de sécurité qui sont testés à l'aéroport
exactement.
De Paris. Voilà. Mais c'est encore expérimental. Donc tout le monde ne connaît pas, je pense, ce qui se passe avec les nouvelles machines.
On a le droit d'amener des liquides.
Exactement.
Même, voilà. Même une bouteille d'un litre. Ouais. Comme dans le train. Oui, et on ne sort plus les liquides des bagages.
C'est grâce à des nouvelles machines extraordinaires. Bien sûr.
Merci beaucoup, Anthony Morel. Tous les jours, 12h50, dans Estelle Midi. Dans un instant, on parlera du PDG de Michelin et de sa petite phrase, le SMIC n'est pas un salaire décent. D'accord ou pas d'accord avec lui, on en débat avec vous dans un instant dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.